C'est elle qui nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour. Au micro, Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En République démocratique du Congo, la réponse à la 10e épidémie d'Ebola dans l'est du pays a conduit à la mise en place d'un système de santé parallèle qui s'est appuyé, je cite, sur une logique raciste, déplorent des experts dans un rapport publié jeudi. Organisé par Kinshasa, des agences des Nations Unies et des ONG étrangères, la réponse n'a pas reconnu les pratiques et infrastructures de santé publique existantes, selon ce rapport du groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'Université de New York. La mise en place d'un système parallèle s'inscrit, ajoute-t-il, dans la même logique raciste qui a historiquement nié la reconnaissance des systèmes de savoir et de pratiques noirs et africains. La 10e épidémie d'Ebola a fait 2287 morts pour 3470 cas entre août 2018 et juin 2020. En Côte d'Ivoire, le policier Théodore Dago Seri, condamné à 17 ans de réclusion pour le meurtre du journaliste français Jean Hélène de RFI en 2003, sera remis en liberté en octobre après avoir purgé sa peine. C'est ce qu'a annoncé jeudi le tribunal militaire d'Abidjan. Pour rappel, le 21 octobre 2003, au soir, Théodore Dago Seri avait abattu Jean Hélène, correspondant donc des RFI, âgé de 50 ans, d'une balle de Kalachnikov dans la tête, alors qu'il attendait à proximité du siège de la police nationale à Abidjan la libération de 11 membres du parti de M. Ouattara, l'actuel président ivoirien, alors dans l'opposition. En Algérie, un ex-policier militant connu du mouvement de contestation Irak a été condamné jeudi à 2 ans de prison ferme, selon le Comité pour la libération des détenus. Il est accusé de menaces sur des agents de police et de divulgation de secrets professionnels sur Facebook, selon cette association de soutien aux détenus d'opinion. Cet ancien policier avait notamment dénoncé la répression policière d'une marche étudiante en octobre 2019 à Alger. Les autorités ciblent depuis des mois les militants, les opposants politiques, les journalistes et les internautes, multipliant interpellations, poursuites judiciaires et condamnations afin d'empêcher une reprise du Irak. Plus de 30 millions de cas de COVID-19, dont plus de 943 000 décès, ont été enregistrés dans le monde avec un taux de transmission jugé alarmant par l'OMS en Europe, où de nouvelles mesures sanitaires draconiennes sont attendues à partir de vendredi au Royaume-Uni et en Espagne. En Israël, le nouveau confinement général du pays entre en vigueur ce vendredi pour 3 semaines. Une manifestation contre cette mesure, annoncée la semaine dernière par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rassemblé environ 400 personnes jeudi soir à Tel Aviv, avec 197 589 décès, les États-Unis, le Brésil, 134 935 morts et l'Inde, 83 198 morts, regroupent à eux seuls plus de la moitié des malades comptabilisés dans le monde. La police fédérale américaine s'inquiète du risque d'affrontements violents entre des groupes extrémistes à l'approche des élections du 3 novembre, a déclaré jeudi le directeur du FBI, Christopher Wray. Le FBI surveille des groupes armés qui se sont défiés en marge de manifestations antiracistes à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, ou à Kenosha, près des Grands Lacs, a dit M. Wray lors d'audiences publiques au Congrès. Des milices d'extrême droite et des militants se déclarant antifascistes se sont greffés aux manifestants qui réclament des réformes de la police et la fin du racisme aux États-Unis dans des protestations souvent émaillées d'actes de violence.
La suite de nos informations. Au Tchad, un colonel de l'armée, extirpé par des membres de sa famille d'un tribunal de N'Djamena à l'énoncé du verdict le condamnant à 5 ans de prison ferme, a été capturé quelques heures plus tard. Nani Talani.
L'officier supérieur Abdoulaye Ahmad Haroun a été repris avec 5 de ses complices, cachés dans une maison, a annoncé hier le ministre de la Justice, Djimet Arabi. Quelques heures plus tôt, le président du tribunal de première instance l'avait condamné à 5 ans de prison ferme pour meurtre. Des hommes et des femmes de sa famille, dont certains avec des armes de guerre, ont fait irruption dans la salle de Jones pour l'extirper du box des accusés et l'emmener vers une destination inconnue. Ils ont même insulté le juge, selon le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Max Veldt-Longar. Le colonel Ahmad Haroun avait tiré à bout portant sur 2 jeunes mécaniciens le 14 juillet, tuant l'un d'entre eux. À l'époque, beaucoup de Tchadiens ont affirmé que ce militaire, de la même ethnie que le président Idriss Déby Itno, avait agi en toute impunité. Le 9 août, le colonel Haroun s'est envolé à destination de l'Égypte. Le Tchad a été obligé d'ordonner que l'appareil d'Égyptaire revienne à N'Djamena et le fugitif a été incarcéré dès l'atterrissage de l'avion.
En République démocratique du Congo, la justice a lancé une enquête pour mettre un terme au fléau de la rémunération des fonctionnaires fictifs qui a coûté près de 260 millions de dollars en 8 ans au trésor public. Le point avec Eddy Issango.
Depuis 2011, les salaires des fonctionnaires sont versés sur un compte bancaire et non plus en liquide de la main à la main. Cette grande réforme de l'ancien régime de Joseph Kabila devait éradiquer la rémunération des agents fictifs, mais n'a pas permis d'éradiquer 133 253 agents fictifs et 43 253 doublons selon une réquisition d'informations transmise le 9 septembre à l'inspection générale de la police. Ainsi, depuis le mois d'août 2011 à novembre 2019, plus de 507 milliards de francs congolais, près de 260 millions de dollars ont été partagés entre 50 personnes, concluent les parquets sans préciser l'identité des agents fictifs. Les trésors publics décaissent mensuellement plus de 209 milliards de francs congolais, près de 107 millions de dollars pour un effectif de 1,22 millions de fonctionnaires et agents de l'État, selon le parquet. Le président Tshisekedi a déclaré faire de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics la priorité de son mandat.
Le groupe État islamique a revendiqué l'assassinat le 9 août à Kouré au Niger de 8 personnes, dont 6 humanitaires français et 2 Nigériens. Nathalie Barge.
La publication de l'organe de propagande des djihadistes évoque une attaque éclair dans la région de Kouré ayant abouti à la mort de 6 croisés français et 2 apostats nigériens. Les humanitaires français, 2 hommes et 4 femmes, avaient été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigérien par des hommes armés en moto alors qu'ils visitaient la réserve de Kouré à 60 km de Niamey. La France a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les autorités judiciaires ont indiqué le 12 août que l'attaque paraissait avoir été préméditée avec l'objectif de cibler des Occidentaux. Quelques jours plus tard, le ministre nigérien de l'Intérieur, Al-Kash Alada, a annoncé qu'un suspect avait été arrêté, sans préciser son identité ni un quelconque lien avec un groupe djihadiste.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI a approuvé le déblocage d'un 1 milliard de dollars de prêts pour l'Angola, dont l'économie est aux prises avec le Covid-19 et la baisse mondiale des prix du brut. Le fonds a également augmenté de 765 millions de dollars le financement du programme d'aide triennale conclu avec Luanda en 2018. Ce programme portait initialement sur un mécanisme élargi de crédit évalué à 3,7 milliards de dollars. Au Malawi, le gouvernement a lancé un projet destiné à améliorer la résilience climatique des communautés dans les districts de Machinga et de Zomba avec l'appui financier du PNUD. Évalué à 1,5 million de dollars, ce projet, coordonné par le ministère de l'Environnement, sera implémenté pendant 2 ans au profit de 5 000 ménages. Le projet permettra aussi la mise en place des infrastructures qui aideront les communautés à améliorer la sécurité alimentaire et à accroître leurs revenus. Pour terminer, le Zimbabwe prévoit une récolte de blé pouvant atteindre 220 000 tonnes pour la campagne 2020-2021 contre 60 000 tonnes l'an dernier. D'après le ministère de l'Agriculture, cette hausse de la production sera due à une augmentation de 83,6% des superficies consacrées aux céréales, soit 44 400 hectares de terre contre 24 000 hectares auparavant. Le Zimbabwe devrait satisfaire près de la moitié de sa consommation et limiter sa facture d'importation du blé.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Sénégal est toujours en tête du classement FIFA Zone Afrique. La FIFA a publié son premier classement des nations pour la saison 2020-2021 avec la Belgique toujours leader au niveau mondial. Au niveau africain, les Lions de la Teranga sont toujours premiers devant la Tunisie qui gagne une place au niveau mondial, 26e. Le Nigeria a aussi fait un bond en avant avec 2 places de gagnées, ce qui lui permet d'intégrer le top 30 qui compte désormais 3 représentants africains. Sur le plan mondial, le Portugal s'est hissé à la 5e place aux dépens de l'Uruguay dans ce classement toujours dominé par le trio Belgique-France-Brésil. Le prochain classement sera publié en octobre et cette fois-ci, il pourrait y avoir des mouvements avec les matchs amicaux en vue pour les sélections africaines lors des prochaines journées FIFA prévues du 5 au 13 octobre. L'impact de la pandémie au menu du 70e congrès de la FIFA, cette édition 2020 aurait dû se tenir le 5 juin à Addis Abeba, mais à cause du nouveau coronavirus, elle se tient en visioconférence depuis le siège de Zurich. Sur les comptes révisés ainsi que sur le soutien à la communauté du football dans cette crise sans précédent, annonce l'instance. La FIFA a dévoilé fin juin un fonds d'urgence doté de 1,5 milliard de dollars. Chaque fédération pourra recevoir 1 million de dollars et 500 000 dollars supplémentaires pour le football féminin, tandis que les confédérations se verront allouer 2 millions de dollars. L'organisation prévoit aussi des prêts sans intérêt compris entre 500 000 et 5 millions de dollars. Les confédérations pourront recevoir un prêt de 4 millions de dollars. Plus de 150 associations membres ont déjà sollicité cette aide, a recensé Oluren, promettant de stricts contrôles de l'emploi de ces fonds. La Juventus a annoncé la rupture à l'amiable du contrat de l'attaquant argentin Gonzalo Higuain, annoncé à Miami, ici aux États-Unis. Le club italien a salué chaleureusement le départ de Pipita dans un long communiqué où il rappelle que le joueur a participé activement à de nombreuses victoires et a conquis avant de partir un 3e scudetto en revenant de son prêt à Chelsea. Le joueur de 32 ans est très attendu à l'Inter Miami, le club de David Beckham, ont révélé plusieurs médias italiens. Il était en Floride la semaine dernière pour boucler les derniers détails de son arrivée en MLS. Malgré des prêts, ses dernières saisons à l'AC Milan et à Chelsea, Higuain a marqué 66 buts pour les Bianconeri, dont le premier et le dernier au même endroit sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Il était arrivé de Naples en 2016 pour 90 millions d'euros.
Votre émission débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Aujourd'hui, vendredi et lundi prochain, nous allons évoquer le syndrome du troisième mandat en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait dit non, puis a dit oui à une candidature, à un troisième mandat. En Guinée aussi, Alpha Condé, 82 ans, a entretenu le suspense pendant longtemps, mais finit par dire qu'il se représente pour un troisième mandat. S'agit-il du mandat de trop ou d'un mandat justifié selon vous? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun a déployé des troupes pour empêcher les partisans de l'opposition de manifester contre le président Paul Biya. L'opposition et les groupes de défense des droits humains accusent M. Biya au pouvoir depuis 38 ans de violation des droits humains et lui reprochent le conflit séparatiste qui dure depuis 4 ans dans les régions anglophones. Les autorités se disent déterminées à arrêter quiconque tentera de manifester. De Yaoundé, reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahim.
Les partisans de l'opposition affirment qu'au moins 12 de leurs membres sont détenus depuis vendredi par ceux qui semblent être des militaires camerounais. Christophe Nkemtché, 27 ans, raconte que 8 conducteurs de taxi-moto de la ville de Douala ont été arrêtés et n'ont pas été revus depuis.
On les a kidnappés parce qu'il était à la presse. Il était en train de lire la presse et de commenter. On les a kidnappés, on ne sait pas. Et on ne connaît pas, on n'a pas pu identifier ceux qui l'ont kidnappé. Nous demandons leur libération parce que c'est les pères de famille, ce sont les femmes et les enfants qui n'ont pas nourri. Libérer ces gars, ils n'ont rien fait. Ils ne méritent pas la prison.
Les dirigeants de l'opposition affirment que ces détentions visent à contrecarrer les manifestations contre les premières élections régionales du pays. Le président Paul Biya a annoncé à la fin du mois d'août que ces élections auront lieu le 6 décembre. L'opposant Maurice Kamto, chef de l'opposition, a promis de perturber le scrutin et a appelé à des manifestations. Kamto, qui dit que Biya lui a volé sa victoire à la présidentielle de 2018, et que le Cameroun devrait d'abord résoudre le conflit séparatiste.
Notre combat contre la dictature se dirige vers sa phase critique. Malgré la nature essentielle pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime recourt de nouveau à la terreur et à la barbarie judiciaire. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous voulons sortir de la dictature.
Les autorités n'ont nié ni confirmé une détention militaire des partisans de l'opposition. Mais le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait lancé une sévère mise en garde à tous ceux qui voudront tenter de troubler l'ordre public.
Je vais lancer un avertissement sévère aux politiciens sans scrupules à la recherche d'une popularité bon marché avec un agenda caché qu'ils devront faire face à la loi en cas de désordre public. Les autorités administratives ont été chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la loi et l'ordre.
Le ministre n'a pas voulu dire combien de soldats ont été déployés, mais les partisans de l'opposition et les habitants disent que leur présence est perceptible dans les grandes villes. Le gouvernement a interdit les rassemblements publics des membres de partis d'opposition dans la plupart de villes et villages du pays. Néanmoins, Kamto a rencontré ce mois-ci des partisans dans le cadre de ce qu'il appelle des plans pour forcer Biya à quitter le pouvoir.
Direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Nigeria, la Cour suprême a confirmé à la fin du mois d'août le droit des filles d'hériter des biens de leur père. Cette décision vient ébranler une tradition bien ancrée dans plusieurs groupes ethniques, tradition selon laquelle l'héritage est réservé aux hommes. Les militants des droits humains saluent une avancée pour l'égalité entre les sexes, mais d'autres estiment que la Cour suprême sape les traditions et les coutumes. D'Abuja, reportage de Timothy Obiezu, relaté par Michel Joseph.
Nkiruka Annie est issue d'une famille polygame du sud-est du Nigeria. Sa mère est la deuxième de trois épouses et son seul frère, et héritier des biens familiaux, est décédé au début de cette année. En mars, Nkiruka Annie et sa mère ont été exclus du partage des biens de sa famille suivant la coutume Igbo interdisant aux femmes l'héritage familial. Pour survivre, Annie se débrouille comme elle peut au marché.
Je crois que nous sommes tous des humains. Tout ce qu'ils donnent aux hommes, ils devraient le donner aussi aux femmes. Nous sommes égaux. Mais je ne connais pas leur propre logique. Peut-être que les femmes ne sont pas. Je ne comprends pas.
La pratique séculaire qui déshérite les femmes est basée sur l'idée qu'une fille se mariera un jour et quittera la maison pour aller vivre avec sa nouvelle famille. Au fil des ans, de nombreuses femmes comme Annie se sont vues refuser l'argent et la propriété dans les partages d'héritage. À la fin du mois dernier, la Cour suprême nigériane, dans un jugement historique, a annulé cette tradition et l'a qualifiée de discriminatoire et de contraire à la Constitution. Militant pour l'égalité des sexes, Solomon Bucci a célébré cette décision.
Constantly, we culture on the scale of objectivity.
Nous devons constamment peser la culture à l'échelle de l'objectivité, de l'équité, de la justice et de l'égalité. Est-ce juste? Est-ce équitable? Est-ce compatissant? Nous ne voulons pas qualifier. Où nous n'allons pas être fiers d'une culture qui déshumanise.
We are not going to pride in a culture that dehumanizes.
D'autres Nigérians ne sont pas de cet avis. Écoutons Elochukwu Polinus, un habitant d'Abuja.
Properties should be shared among men because.
Les propriétés devraient être partagées entre les hommes parce que c'est quelque chose que nos ancêtres font depuis fort longtemps. Et cela marche comme ça. Et je ne pense pas que nos femmes se plaignent.
Toujours à Abuja, le président du Conseil des dirigeants traditionnels, Igbo, Ezoido Uche Egenti, se plie à la décision de la Cour suprême.
La Cour suprême a pris la parole. Il est normal que vous et moi suivions les lois du pays. Et je me demande pourquoi c'est juste les Igbo, ce qui pourrait signifier que le Nord, le Sud ne pratiquent pas la même chose que nous.
Alors que certains prédisent une mise en œuvre difficile de la décision du tribunal, les militants pour l'égalité des sexes espèrent voir des progrès.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Oklahoma abritait autrefois plus de 50 villes entièrement noires, plus que partout ailleurs aux États-Unis. La plupart de ces villes, établies par des esclaves affranchis, ont disparu. La bataille est lancée maintenant pour sauver ce qui reste de 13 villes entièrement noires. Reportage de Dora Mekwar, repris ici par Michel Joseph.
Lorsque le gouvernement américain a forcé plus de 60 000 Amérindiens à déménager en Oklahoma pour faire place aux colons blancs dans les années 1830, leurs esclaves sont venus avec eux. Après leur émancipation, ces anciens esclaves, appelés affranchis, se sont installés et ont construit leur propre ville. Jocelyn Hall, head du groupe Coltrane.
Where they would have the opportunity to live amongst people that looked like them, amongst people
who ils auraient l'opportunité de vivre parmi des gens qui leur ressemblent, parmi des gens qui comprennent le sort auquel ils avaient échappé, mais prêts à se lancer dans une nouvelle opportunité, être dirigés par leur propre peuple, leurs maires et leurs élus, qui étaient tous comme eux. C'était une chance incroyable. Dans les années 1910, la ville de Bowie était une communauté florissante avec des hôtels, des médecins, des avocats, des écoles, des collèges et des restaurants. À nouveau, Jocelyn Hall, head.
They had their own newspaper in Bowie. They had their own phone company. So it was.
Ils avaient leur propre journal à Bowie. Ils avaient leur propre compagnie de téléphone, sans parler des milliers de fermes.
Thousands of farms.
Mais la Grande Dépression des années 30 a fait des ravages sur les villes noires. De nombreux résidents sont partis chercher du travail ailleurs. Aujourd'hui, il ne reste que 13 villes entièrement noires en Oklahoma, y compris Grayson, qui compte 140 habitants. Témoignage de Leon Anderson, maire de Grayson.
90%
de personnes sont des retraités que vous connaissez ou des personnes qui ont un certain handicap qui sont revenus à Grayson. Cela constitue notre communauté.
Shirley Nero, une enseignante à la retraite, est retournée chez elle à Clearview avec son mari, un président d'université à la retraite, après avoir passé leur vie professionnelle ailleurs.
I wanted to come back here. I knew this
Je voulais
town
venir ici. Je savais que cette
and
ville avait besoin de nous et nous avions la capacité et le savoir-faire nécessaire pour être un atout pour Clearview.
De nombreux bâtiments des anciennes villes noires sont en ruine, abandonnés ou négligés par les propriétaires absents. Un groupe de bénévoles appelé The Coltrane Group s'est donné comme objectif de redonner vie aux villes noires de l'Oklahoma. Le groupe organise des visites de ces villes dans l'espoir de susciter l'intérêt et de recueillir des fonds pour aider à préserver une partie de l'histoire de l'Oklahoma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a contredit une déclaration du directeur des centres de prévention et de contrôle des maladies sur le calendrier de son administration pour fournir aux Américains des vaccins contre le coronavirus. Son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, a présenté ses plans de vaccination s'il remportait les élections de novembre. Reportage de Patsy Uedakuswara, relaté par Nathalie Barge.
Un vaccin contre le coronavirus sera disponible en quantité limitée entre novembre et décembre, a déclaré mercredi Robert Redfield, directeur des centres de prévention et de contrôle des maladies, précisant qu'il sera largement disponible bien plus tard.
I think we're probably looking at
Nous l'envisageons probablement pour la fin du deuxième trimestre. 2021.
Quelques heures plus tard, le président Donald Trump a contredit son expert.
Je pense qu'il a fait une erreur en disant cela. Ce sont des informations incorrectes. Je l'ai appelé et il ne m'a pas dit cela. Je pense qu'il a compris le message. Peut-être qu'il a été mal exprimé par confusion. Nous sommes prêts à commencer dès que le vaccin sera annoncé et il pourrait l'être en octobre.
Monsieur Trump a également contredit la déclaration du directeur des CDC selon laquelle les masques se sont avérés efficaces et pourraient offrir plus de protection qu'un vaccin. Lors d'une réunion publique mardi, il a déclaré que le coronavirus disparaîtrait sans vaccin, affirmant que la population finirait par s'immuniser. William Schaffner est professeur de maladies infectieuses à l'université Vanderbilt.
La seule façon d'obtenir l'immunité collective sans vaccin est que le virus le fasse tout seul. Il doit infecter un grand nombre de personnes et les rendre malades au point de se retrouver à l'hôpital. Et nous aurions beaucoup de décès de personnes de tous âges, d'enfants, des jeunes adultes et de nombreuses personnes âgées et atteintes de maladies chroniques. Nous ne voulons certainement pas cela.
Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a exposé mercredi son plan pour développer et distribuer un vaccin s'il est élu.
Il comprend un calendrier détaillé sur la période de vaccination, des directives claires sur les populations prioritaires, un mécanisme spécifique pour expédier et stocker le vaccin à des températures appropriées. Deux de ces vaccins, s'ils deviennent effectifs, doivent être stockés et expédiés lié à moins 70 degrés. La répartition des responsabilités à chaque niveau de gouvernement doit être précise et je fournirai le leadership nécessaire pour mener à bien ce plan.
Des scientifiques du monde entier tentent de développer un vaccin contre le Covid-19. Plus de 170 vaccins potentiels sont suivis par l'OMS. Ils doivent respecter des normes très élevées car ils sont administrés à des millions de personnes.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.